Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bonjour et bienvenue dans cette capsule « L'amour vaincra ». Je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'abord d'une très belle vertu, mais vraiment très belle, qui s'appelle le trapelli. Ensuite, ce sera une petite scénette où j'avais demandé à un étudiant de jouer le rôle de Jésus. C'était sur le mode de l'improvisation, mais j'avoue que j'avais été bluffé par ce qu'il disait et je ne résiste pas au plaisir de vous passer cette petite scénette sur le thème « Et toi, Jésus, si tu devais revenir, est-ce que tu ferais exactement la même chose ?» Et puis enfin, une dernière capsule où nous parlerons cette fois-ci culture biblique. Quelles sont les grandes parties de l'Ancien Testament ? Bonne écoute à vous. Il y a une vertu avec un nom tellement barbare et pourtant d'une telle beauté qu'elle a fini par devenir ma préférée et je pressens qu'elle pourrait aussi devenir la vôtre. On l'appelle l'eutrapélie. Eutrapélie, c'est du grec, mais en français on pourrait la traduire par la vertu de bonne humeur. Vous savez, ces gens qui ont le sourire, qui sont agréables, qui sont sympathiques, tout simplement parce que ils ont le don d'arriver à alléger l'atmosphère, à insuffler une petite plaisanterie ici et là, à faire preuve de souplesse et de sympathie. À l'opposé de l'eutrapélie, il y a ces attitudes artificiellement religieuses, guindées et moroses, qui finissent par alourdir l'atmosphère par leur simple présence. Alors, grâce à Dieu, dans un passé où l'on croyait que pour être saint, il fallait être raide et austère, il y a cette phrase de la Bible, « Soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez toujours dans la joie. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16-18. Comme le soulignent les vieux traités de philosophie, c'est dans le naturel et l'élégance que la vertu de l'eutrapélie trouve son achèvement. Un saint triste est un triste saint. Si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais ?
Tout pareil.
Si on t'avait dit tu vas terminer sur une croix...
Tout la même.
Il n'y a rien que tu changerais.
Tout a été fait exactement parce que c'était souhaité.
Et même tu reverrais Judas, tu lui dirais « Vas-y mon coco, je te veux dans mon équipe ».
Alors, je ne l'ai pas dit comme ça la première fois, je ne le dirai pas comme ça la deuxième. Mais j'essaierai, oui, je le laisserai venir au sein des apôtres. Je veux croire jusqu'au bout à sa conversion, que ce soit une fois, deux fois, mille fois, s'il le faut. Mais n'en tienne qu'à lui.
C'est français, ça ?
Non. Jésus n'est pas français, hein.
Parlons culture biblique. Quelles sont les grandes parties de l'Ancien Testament ? L'Ancien Testament, vous savez, cette partie de la Bible où l'on parle de ce qui s'est passé avant Jésus et qui est commune aux chrétiens comme aux juifs. L'Ancien Testament est généralement divisé en trois grandes parties. La première partie, la plus importante, s'appelle la loi, ou bien la Torah en hébreu, ou bien encore le Pentateuque en grec. Pentateuque qui veut dire les cinq livres, puisqu'en fait la loi, la Torah, les Pentateuques, la première partie de l'Ancien Testament, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Vous connaissez au moins le premier qui s'appelle la Genèse, où on parle de la création du monde et d'Adam et Ève, puis l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, qui parle de l'histoire du plus grand des patriarches pour les Juifs et qui est Moïse. Ça, c'est la première partie la plus importante pour les Juifs. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les livres historiques, que les Juifs appellent aussi les livres prophétiques. C'est une partie de l'Ancien Testament qui comprend une série de livres qui racontent l'histoire du peuple d'Israël depuis la conquête de la terre promise, c'est-à-dire quand ils sont partis d'Égypte guidés par Moïse pour s'installer en Palestine-Israël, jusqu'à ce qu'on appelle la période post-exilique, puisqu'à un moment donné, les Juifs vont se retrouver déportés à Babylone. Il y a enfin une dernière partie qu'on appelle le reste, les écrits, ou bien encore les livres prophétiques ou sapientiels, et qui sont très, très, très beaux. Vous y trouverez les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, mais aussi le Cantique des Cantiques. Enfin bref, retenez cette tripartition de l'Ancien Testament, la loi, la partie la plus importante pour les Juifs, puis les prophètes, puis les écrits, et avec cela, vous pourrez avoir une vision d'ensemble de ce que raconte l'Ancien Testament. Nous continuons maintenant avec l'évangile de ce dimanche. Dans l'évangile selon saint Marc, nous sommes au début, chapitre 1, versets 29 à 39. Je vous le lis avant de le commenter. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Vous êtes ici au début de l'évangile selon saint Marc, et plus précisément dans ce que les exégètes, c'est-à-dire les spécialistes de la Bible, appellent la journée type de Jésus. En effet, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ce récit commence la veille au soir pour aller jusqu'au lendemain soir, ce qui correspond dans la mentalité juive à une journée entière. Pour nous, une journée va de minuit à minuit. Pour les juifs, la journée allait de 18h-19h jusqu'au 18h-19h du lendemain. Et donc on apprend ce que faisait Jésus de ses journées. Il y faisait des exorcismes, chassant les esprits mauvais, il y faisait des miracles, notamment des miracles de guérison, ici avec la belle-mère de Saint-Pierre. Tiens, au passage, nous sommes à Capharnaüm et les fouilles archéologiques ont retrouvé la maison de Saint-Pierre. Que faisait Jésus sinon ? Eh bien, il priait. L'évangile vous a dit que très tôt avant le début du jour, Jésus partait prier. Et puis ensuite, il allait enseigner, c'est-à-dire prêcher le royaume du ciel, là où il pouvait, c'est-à-dire dans les synagogues, ou bien au hasard des rencontres. Bref, cela ne vous apprend peut-être pas grand-chose que vous ne sachiez déjà sur Jésus, même si je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'émouvant à se représenter quelque chose comme 24 heures dans la peau de Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire de cette journée ? Vous avez noté au passage l'importance de la prière. Laissez-moi maintenant terminer en vous souhaitant un bon dimanche à tous.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant l'amour vaincra.